VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, des manifestants ont dressé des barricades et incendient des pneus sur la voie menant à l'université de la capitale Ouagadougou. Le président français Emmanuel Macron a prononcé un discours face à 800 étudiants. Scandant les slogans tels que « Abat l'exploitation de l'Afrique par l'Occident », les protestataires ont bloqué des véhicules se rendant à l'université. Les forces anti-émeutes ont été déployées pour maîtriser la situation. Plus tôt dans la journée, le président Emmanuel Macron a promis que tous les documents français concernant l'assassinat de l'ancien chef d'État burkinabé Thomas Sankara en 1987 seraient déclassifiés. Et ce, à l'issue d'un entretien avec son homologue burkinabé Rochmar Christian Kabore à Ouagadougou. Les archives sont aujourd'hui disponibles et ouvertes à la justice burkinabé, sauf pour les documents classifiés et couverts par le secret défense, a déclaré le président français lors d'un point de presse. Après le Burkina, le président Macron est attendu à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, qui abrite mercredi et jeudi un sommet Union européenne-Union africaine. À la veille de cette rencontre, le 6e forum des affaires a mis l'accent hier sur l'innovation numérique au service du développement durable. Éric Manirakiza.
Investir dans la jeunesse pour un avenir durable est le thème principal du sommet. Des initiatives développant le numérique pour pallier les carences de l'éducation et de la formation professionnelle en Afrique ont été récompensées dans le cadre du concours d'innovation Digital Africa. L'Internet sur téléphone mobile s'est largement répandu en Afrique, mais 8 Africains sur 10 ne sont pas connectés à Internet de façon permanente. Abdoul Diallo, un ingénieur sénégalais de 26 ans dirigeant la société Volcano, a conçu un logiciel permettant aux étudiants d'accéder aux cours vidéo et à des programmes interactifs à des prix accessibles au plus grand nombre. L'Ivoirien Lamine Barreau, 23 ans, a créé EtuDesk et propose des cours en ligne sur les entreprises pour combler le déficit des jeunes diplômés africains. Enfin, YouScribe du français Juan Pirlo de Corbion permet de publier livres et travaux aux universitaires. Cette application propose 200 000 références de documents dans les secteurs éducatifs et professionnels. Au total, ce concours de Digital Africa a récompensé 5 innovations africaines et 5 françaises.
Au Mali, un ancien magistrat à la retraite a été nommé à la tête du ministère de la Justice après la démission du ministre Mamadou Ismaël Konakete. Cette démission intervient dans une situation très tendue au niveau de la justice malienne avec plusieurs affaires en instance. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, brosse le portrait d'Amidou Younoussa Maïga.
Natif de Gao, le tout nouveau ministre de la Justice est un magistrat à la retraite. Amidou Younoussa Maïga est âgé de 67 ans. Il a fait ses études à l'ENA de Bamako avant d'aller à l'École nationale de la magistrature en France. L'enfant de Gao fit tour à tour juge de paix, juge d'instruction, avocat général près la cour d'appel de Bamako et conseiller à la même cour. Amidou Younoussa Maïga a servi au bureau du procureur du tribunal international pour le Rwanda de 1997 à 2012. Le nouveau ministre de la Justice, Garde des Sceaux, vient à un moment où la tension est vive au niveau de la justice, surtout avec les multiples dossiers en instance dont le traitement, comme les différentes interpellations de Rasbach, pose problème. Le procès de Amadou Aya Sanogo et compagnons, poursuivi dans l'affaire des 21 bérets rouges assassinés, constitue des dossiers brûlants pour le nouveau titulaire du ministère de la Justice, Garde des Sceaux. En tout cas, Mamadou Ismaïla Konaté, qui a démissionné, n'a donné pour le moment aucune explication par rapport à sa démission, qui d'ailleurs a été une grande surprise pour bon nombre de Maliens. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Kenya, dans son discours d'investiture pour un second et dernier mandat, le président Uhuru Kenyatta a promis ce mardi d'unifier une nation meurtrie par un processus électoral et rappeler aux Kenyans les profondes divisions qui traversent leur pays. Je consacrerai mon temps et mon énergie à construire des ponts, à unifier et à apporter la prospérité à tous les Kenyans, a déclaré M. Kenyatta. Mais l'opposition qui a boycotté le scrutin d'octobre répète à l'envi qu'elle ne reconnaît pas sa réélection. En RDC, l'Assemblée nationale a entamé lundi l'examen d'un projet de révision de la loi électorale. Une étape importante dans le processus vers les élections. Abdourahmane Dia.
Le projet de loi doit être adopté d'ici vendredi et promulgué le 15 décembre au plus tard selon le calendrier. Plusieurs élections, dont le scrutin présidentiel, doivent se tenir le 23 décembre 2018. Le texte prévoit un nouveau seuil légal de représentativité aux législatives pour décourager les candidatures fantaisistes et favoriser des regroupements des partis politiques, a indiqué le ministre de l'Intérieur. Emmanuel Ramazani Chadari estime qu'il y a 703 formations politiques dans le pays. Corneille Nanga, le président de la CENI, a justifié sa participation à une réunion des cadres de la majorité, assurant qu'il s'agissait d'une pré-consultation de la majorité présidentielle et de l'opposition. La CENI a récemment annoncé la tenue des élections pour le 23 décembre 2018. Hier, la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, a demandé au président Kabila d'annoncer clairement sa non-participation à la prochaine présidentielle. Pour le moment, M. Kabila n'a fait aucune déclaration sur ses intentions.
RDC toujours, à l'heure où la préoccupation de ses compatriotes est ailleurs, un jeune Congolais de l'est du pays, déchiré par 21 ans de conflit, prend sa plume pour raconter son vécu depuis le déclenchement de la guerre en 1996. Il s'inspire des scènes de la vie courante pour porter un regard nouveau sur le mal congolais. Il évoque l'histoire, se penche sur le présent et prédit l'avenir de la RDC. Solange Napolis est adjoint. Laurent Kassindi, l'auteur du livre « Ces vérités qui nous mentent ».
Les chercheurs de cette ONG Chad Soldi International ont interrogé environ 150 jeunes filles anciennement associées aux groupes armés sur leur difficulté de s'intégrer socialement dans leur communauté d'origine. Marie de la Soudière est parmi les chercheurs qui ont parcouru la région pour rencontrer ces jeunes filles.
Elles ne demandaient rien de plus, qu'on les laisse vivre comme les autres, qu'elles puissent s'intégrer, qu'elles puissent aller dans les groupes de jeunes, qu'elles puissent chanter dans les chorales. Les résultats, une mobilisation très 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 large des communautés elles-mêmes, des familles et des notables.
D'autres ONG locales ont déjà commencé les travaux de sensibilisation communautaire pour un apprentissage au métier à certaines de ces jeunes filles pour qu'elles soient autonomes dans le futur. Mais ces Simon et Joachim sont parmi ceux qui œuvrent dans ce secteur depuis plus de 10 ans. Ils estiment que beaucoup reste encore à faire suite aux conflits récurrents dans leur milieu.
Puisque l'année passée, nous avons commencé avec le projet de l'alphabétisation.
Nos enfants, nos filles sont toujours exposés au risque de recrutement.
Pour l'UNICEF RDC, 80% de ces enfants ont réussi jusqu'à présent à quitter les groupes armés depuis le lancement du processus de réintégration et de réinsertion sociale, mais la situation des jeunes filles reste préoccupante. André Moussa est le chargé de protection de l'enfance pour l'UNICEF Zone Est en RDC.
On compte à ce jour à peu près de 70 groupes armés qui sont actifs au niveau de l'Est de la RDC. Et donc il est difficile d'établir exactement le nombre d'enfants qui restent encore dans les fosses groupes armés, étant donné que les groupes armés naissent, se font, se fusionnent et chaque jour il y a toujours cette dynamique de conflit qu'on ne sait pas prévenir. Lorsque les communautés savent que les filles ont été utilisées et recrutées par les forces du groupe armé, elles subissent les rejets, la discrimination, ce qui pose un problème sérieux de réintégration des filles.
Les groupes armés continuent à utiliser des enfants, que ce soit les filles ou les garçons. Le plus souvent, les chefs de ces milices se justifient en disant être des groupes d'autodéfense contre les agresseurs. Ils nient toute présence des enfants. Ils sont écartés loin de notre micro et de la caméra. Ici, nous sommes au site Kivu, dans la plaine de la Ruzizi, où actuellement plus de 20 groupes armés sont encore actifs.
Seulement les plus forts gardent nos positions, pas les enfants. Mais nous voulons aussi être démobilisés et quitter cette brousse.
Récemment, dans un communiqué, la coordination de la société civile au Nord Kivu a demandé une justice exemplaire pour tous ces seigneurs de guerre qui continuent à utiliser les enfants au sein de leurs milices. Étienne Kambalé en est le rapporteur.
L'impunité, la léthargie ou la lourdeur dans le traitement des dossiers de certains leaders des groupes armés, notamment Thabo Tabéry Tcheka, chef de la milice NDC, Jamil Mukulu, chef de l'ADEF. Cette situation a posé les lits au découragement.
La sensibilisation doit donc continuer pour permettre une bonne réintégration sociale de tous ces enfants, garçons et filles ayant perdu leur enfance au sein des milices. Charlie Kassereka, Goma, pour VOA Afrique.
Et merci Charlie Kassereka qui nous parlait du cauchemar des enfants soldats. Pour terminer, le procès pour corruption de la présidente sud-coréenne destituée Park Geun-hye va se poursuivre sans elle après une pause de plus de 40 jours. C'est ce qu'a annoncé le tribunal ce mardi. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.